Le journal est présenté par Claire Checaglini.
Bonjour à tous. Une crise économique pire encore que celle de 2008. Scénario probable des suites de la pandémie de coronavirus, estime Eli Cohen, économiste à Sciences Po. Une crise sanitaire qui menace aussi les plus hautes sphères du pouvoir, mais qui réveille les conspirationnistes de tous bords également. Reportage à suivre sur les évangélistes américains. Crise sanitaire qui est en train de meurtrir particulièrement l'Italie et de mettre à mal les solidarités européennes quand Rome se tourne vers Pékin. Explication de notre correspondant. Après la crise sanitaire, la crise économique qui s'annonce serait-elle la plus grave de ces dernières décennies? Pays au ralenti, arrêt des usines, coup de frein aux activités touristiques. Aux États-Unis, c'est aujourd'hui que la Chambre des représentants a adopté le plan de 50 milliards de dollars présenté hier par Donald Trump. Plan dans le cadre de l'état d'urgence, une mesure qui signe le retour de l'état-providence et ce, par un président du camp républicain, signe de la gravité d'une situation désormais pandémique, dixit l'OMS. Pour l'économie, Eli Cohen, professeur à Sciences Po et directeur de recherche au CNRS, le scénario qui se profile est bien pire que celui de la crise de 2008 et de son krach boursier.
Quand vous avez un choc sur les marchés financiers parce que la liquidité disparaît, on sait comment faire. On sait en gros qu'il faut que les banques centrales baissent les taux, mettent de l'argent. Quand vous avez une pandémie, que ça commence par une crise d'offres, c'est-à-dire que les chaînes d'approvisionnement s'arrêtent, que ça continue par une crise de demande, c'est-à-dire que les gens ne consomment plus, quand ça provoque une panne de l'investissement, quand en plus le foyer se déplace de la Chine à l'Europe et que l'Europe devient le cœur de la crise, et surtout lorsque la crise, d'abord sanitaire, puis économique, devient financière. Je pense que cette crise est déjà plus importante que la crise de 2008-2009. Ce qui s'est passé avec l'effondrement des bourses, c'est déjà des mécanismes où on voit que des agents paniqués qui n'arrivent plus à faire face à leurs obligations, ce qu'on appelle les appels de marge, quand il y a des fonds en difficulté, eh bien sont obligés de bazarder ce qu'ils ont, et même de l'or. L'or, normalement, c'est un actif de précaution, il est bazardé en ce moment.
Plus de valeurs refuge donc, et parmi les annonces de ce jour sur les conséquences économiques du Covid-19, la fermeture par Apple dans le monde entier, hormis en Chine, de tous les magasins. Hier soir, c'était la compagnie aérienne néerlandaise KLM qui communiquait sur la suppression de 2000 emplois dus aux annulations de vols liés au coronavirus. En Espagne, tous les commerces non indispensables sont fermés aujourd'hui. L'Espagne, deuxième pays le plus touché en Europe par le Covid-19 après l'Italie, doit décréter l'état d'alerte. Un conseil des ministres exceptionnel se tient ce samedi à Madrid. Pendant ce temps, les frontières ne cessent de se fermer. Les étrangers ne pourront plus rentrer en Russie depuis la Norvège et la Pologne à compter de demain. Fermeture aussi des frontières de la Lituanie. Au Maroc, il n'y a désormais plus de liaison maritime et aérienne avec la France et l'Espagne. Dans la métropole de Nice cette fois, les passagers des navires ne seront plus autorisés à accoster. Et en France, justement, c'est dans ce contexte inédit que 48 millions d'électeurs sont appelés à élire maires et conseillers municipaux demain. Dans les 70 000 bureaux de vote, celles et ceux qui se rendront aux urnes pourront se laver les mains avec du savon ou du gel avant et après le vote. Mais l'épidémie ne risque pas simplement de se répandre parmi les électeurs. Le Covid menace aussi les grands de ce monde. Alors comment font-ils eux aussi face à ce virus? Louise Bonnet, la communication de crise est diversement gérée.
D'un côté, le bras d'honneur de Jair Bolsonaro. Annoncé positif au coronavirus, le président brésilien dément. Sur Twitter, il fustige les médias propagateurs de fausses nouvelles et, joignant le geste à la parole, nargue ce virus que le monde surestime. De l'autre, Justin Trudeau en bon élève du télétravail. Le premier ministre canadien est confiné chez lui. Sur Twitter toujours, il prend la pause, affairé au téléphone depuis son domicile, plus que jamais concentré sur les problèmes de ses concitoyens. Sage quarantaine aussi pour l'ensemble du gouvernement roumain, le ministre de la Culture français Franck Riester, le ministre australien de l'Intérieur ou encore la ministre espagnole à l'égalité. Donald Trump, lui, n'est toujours pas testé malgré ce dîner à Palm Beach la semaine dernière avec Jair Bolsonaro et son fameux collaborateur porteur du virus. Pas inquiet, le président américain face à cette pandémie qu'il a longtemps minimisée, mais un autre est carrément intouchable, Kim Jong-un. Sur les photos officielles, le despote nord-coréen supervise des exercices militaires au milieu d'officiers masqués. Lui seul ne porte aucune protection. Le grand soleil du 21e siècle, naturellement à l'abri des contaminations.
Les explications de Louise Baudet. Côté bilan, ce matin, l'Iran annonce 97 nouveaux morts, soit 611 personnes tuées par le Covid-19. En Suède, un deuxième décès dû à l'épidémie a été comptabilisé ce matin. La patiente était une femme de 85 ans. En Autriche, un troisième village a été placé en quarantaine ce samedi, alors que les contaminations augmentent de 40% par jour. Cette commune de haute montagne est à la frontière avec l'Italie. En Italie, qui comptait hier soir la plus importante progression du nombre de décès jamais enregistrés en une seule journée, le pouvoir se tourne désormais vers la Chine. Rome se sent en effet isolée. Les explications sur place d'Antonio Gallofaro.
Une femme habillée aux couleurs de l'Italie est aidée à se relever par une autre femme, portant une robe aux couleurs chinoises. En arrière-plan, la figure de la mort, avec sa faux, mais sa tunique n'est pas noire, elle est bleue, avec des étoiles jaunes. Il s'agit de l'Europe. Son visage n'est pas un crâne, mais une face énervée avec, comme nez, le symbole de l'euro. Depuis quelques jours, ce dessin tourne sur les réseaux sociaux et dans les messageries. Les Italiens ont le sentiment d'être abandonnés et commencent à voir la Chine comme l'amie salvatrice. Les politiques reprennent déjà ce sentiment, comme le gouverneur de la Ligurie, Giovanni Totti, à mi-chemin entre Silvio Berlusconi et l'extrême droite de Matteo Salvini.
L'Europe est la grande absente. Trois paroles de Mario Draghi avaient sauvé toute l'économie européenne lors de la dernière crise économique. Whatever it takes, nous ferons tout ce qu'il faut pour sauver l'Europe. Cette réponse de l'Europe, aujourd'hui, n'arrive pas.
La Chine semble profiter de la crise pour exercer son soft power sur l'Italie, déjà acquise aux nouvelles routes de la soie, et s'appuyant sur un ministre des Affaires étrangères peu diplomatique. Nous nous rappellerons des pays qui nous ont été proches en ce moment, a lancé dans la semaine Luigi Di Maio, comme une critique aussi envers l'Union européenne.
Les explications d'Antonino Gallofaro. Aux États-Unis, le virus est désormais présent dans quasiment chacun des 50 États américains. Cette pandémie suscite dans les milieux complotistes américains et sur les médias radicaux les théories et les solutions, entre guillemets, les plus délirantes. À Washington, la correspondance de Grégory Phillips.
À 83 ans, le Texan Kenneth Copeland est l'un des 10 télévangélistes les plus riches du pays. Et sur sa propre chaîne baptisée Victory News, il promet de soigner du coronavirus à travers l'écran. Posez votre main sur le téléviseur, prêche-t-il, tout en n'oubliant pas, à intervalles réguliers, de lancer un appel aux dons pour sa propre église. Sur Fox News, voici Jerry Falwell Jr., qui préside la Liberty University, l'une des plus grandes universités évangéliques du pays.
On peut quand même se demander s'il n'y a pas un objectif politique derrière tout ça. L'impeachment n'a pas marché, le rapport Mueller non plus. Et souvenez-vous, le dirigeant nord-coréen avait promis en décembre un cadeau de Noël pour l'Amérique. Peut-être qu'ils se sont unis avec les Chinois et que c'est ça le cadeau. Je ne sais pas.
Le conspirationniste d'extrême droite, enfin, Alex Jones, soutien de Donald Trump, fait dans son émission radio la promotion d'un dentifrice censé guérir du coronavirus. En vente, $7.47 sur son site. Le procureur de New York l'a immédiatement mis en demeure de cesser ce genre de publicité, l'accusant de jouer sur les peurs des Américains.
Et puis au registre des conseils qui n'ont cette fois rien de délirant, le ministre de la Santé en a livré ce matin sur son compte Twitter. Olivier Véran, lui-même médecin, indique qu'il est préférable en cas de contamination de prendre du paracétamol plutôt que des anti-inflammatoires comme l'ibuprofène par exemple. Et parmi les nombreuses conséquences économiques notamment de cette pandémie, l'utilisation accrue d'Internet avec tous les salariés contraints de travailler à distance. Et hasard du calendrier, c'est aujourd'hui que Google lance les travaux d'un super câble qui passera sous l'Atlantique. Le câble appelé Dunant reliera la Virginie aux États-Unis à Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée. Longueur de Dunant 6600 km, date d'entrée en service au cours de l'été prochain. Cela faisait plus de 15 ans qu'un câble transatlantique n'avait pas été installé en France et surtout c'est la première liaison financée majoritairement par un GAFAM, géant du numérique américain, Diane Berger.
Avec une capacité de plus de 300 terabits par seconde, ce câble nouvelle génération aura un débit supérieur à tous ceux qui étaient déjà déployés dans l'Atlantique. L'infrastructure qui coûte près de 300 millions d'euros est construite en partenariat avec Orange qui disposera d'une partie du débit. Jean-Luc Vieumain est le directeur des réseaux internationaux de l'opérateur français.
À peu près 80% du trafic Internet généré par les internautes français part directement aux États-Unis. Donc il est absolument crucial pour nous, pour pouvoir assurer le bon fonctionnement des services que nous livrons à nos clients, de disposer de capacités suffisantes sur l'Atlantique qui permettent également d'assurer la croissance du trafic qui est grosso modo d'un facteur 2 tous les 2 ans.
Plus de 90% de nos données Internet passent par les câbles, le reste par satellite et les géants américains du numérique l'ont bien compris. Facebook, Microsoft et Google ont déjà ainsi mis en service un autre super câble il y a 2 ans, Marea, entre Bilbao en Espagne et les États-Unis.
La plupart des câbles jusqu'à présent étaient réalisés sous la forme de consortiums qui associaient plutôt des opérateurs de télécoms internationaux. Malheureusement, les acteurs traditionnels ont un peu délaissé ce type d'investissement et les GAFA se sont un peu engouffrés dans la brèche. Lorsque je fais la somme des investissements que Facebook réalise et va réaliser dans les deux années à venir dans les câbles sous-marins, moi j'atteins un total de 3,5 milliards de dollars.
Et un deuxième câble du même type doit être construit peu après, précise Orange, sans donner de date. Ce doublon est une exigence en matière de sécurité.
Et le super câble Google, c'est à retrouver sur franceculture.fr.
La bulle économique, Marie Viennot.
Et aujourd'hui, dans la bulle économique, Marie Viennot s'interroge sur l'effet de la chute des bourses cette semaine.
Sulle piazze finanziarie, il crollo delle borse ha bruciato quasi 800 miliardi.
C'est la bourse de Milan qui a le plus plongé jeudi, 17% de baisse. À Paris, ce fut 12%, la pire chute du CAC 40 en une journée. 10% à Wall Street, 14% à Madrid, 12% à Francfort, 10% à Londres. Là aussi, une baisse historique en cette journée qu'on ne se risquera pas à appeler jeudi noir. Corona crack, c'est le terme que l'on trouve maintenant parfois utilisé pour désigner le yo-yo des places boursières depuis l'expansion du coronavirus. Hier, vendredi, toutes les bourses sont reparties à la hausse, mais la tendance reste clairement à la baisse. Alors cette quasi-panique boursière, qui affecte-t-elle? Les actionnaires qui conservent leurs actions ne perdent pas d'argent. Leurs pertes ne sont que potentiel. Pour les actionnaires qui possédaient des actions et les ont vendues à la baisse, la perte n'est pas non plus systématique. Tout dépend du prix auquel il ou elle les avait achetées. Contrairement aux États-Unis, où 14% des ménages possèdent des actions en direct et 52% dépendent des marchés boursiers via leur retraite par capitalisation et les fonds de pension, en France, 8,8% de la population a un patrimoine relié à la bourse, ce qui limite l'effet macroéconomique des yo-yo boursiers. C'est plus problématique pour les entreprises dont le cours chute brusquement, car cela les expose à des OPA hostiles. Le risque est réel et Bercy a promis d'intervenir, quel que soit le prix, Bruno Le Maire.
Nous aiderons toutes les entreprises dans lesquelles l'État a une participation. Air France, Renault, et qui sont aujourd'hui violemment chalus
quoi qu'il en coûte.
Sur toutes les bourses mondiales, quoi qu'il en coûte.
Hormis ce risque d'OPA, la baisse des cours de leurs actions n'empêche pas les entreprises de fonctionner normalement. Ce qui va les en empêcher, ce sont des problèmes d'approvisionnement ou de débouchés. Et ce sera encore plus dur pour les petites et moyennes entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Le risque, il est donc d'abord et avant tout dans l'économie réelle. C'est ça la grande différence avec la crise de 2007-2009. Et si les marchés font le yo-yo, c'est une réaction à ce risque Covid-19 auquel ils ne savent pas donner un prix. L'appétit pour le risque n'est plus là. Le retournement menace et le marché action n'est pas le seul à être incertain. Que vont devenir les ETF, ces indices qui reproduisent mécaniquement des indices boursiers? Quid des produits dérivés dont les montants se comptent en trillions? Même l'or a connu une chute historique cette semaine, ce qui peut paraître incompréhensible, mais indique que certains acteurs financiers ont cruellement besoin de liquidités et vendent même l'or. Dans ce climat, la grande question, c'est le pli que prendront les marchés obligataires, ceux qui financent notamment les dettes des États via l'achat de bons du Trésor. Dans les mois qui viennent, ces émissions de dettes vont être massives. Les plans de relance annoncés se comptent en dizaines de milliards d'euros. Des milliards que les États n'ont déjà pas dans leur caisse. Ils en auront encore moins dans quelques mois. Car moins de consommation, ce sera moins de TVA, moins d'entreprises en bonne santé, ce sera moins d'impôts sur les sociétés. Les marchés financiers financeront-ils ce nouvel afflux de bons du Trésor? Et sinon, que se passera-t-il? C'est cette incertitude générale qui nourrit la tendance baissière des marchés boursiers. Or, dans les moments de crise, la bourse devient comme un thermomètre. Ce qu'elle entend depuis quelques jours, c'est risques de récession mondiale. Et nous, qui entendons parler de crack, de plongeon, de panique et de chute historique, cela oriente nos comportements économiques plutôt à la baisse aussi, même si on ne possède pas d'action. Et nous voilà tous reliés, économie réelle, économie boursière, dans une spirale qui malheureusement n'est pas vertueuse.
Marie Viennot, la météo avec le Pas-de-Calais en vigilance orange pour risque d'inondation et de crue, temps nuageux et pluvieux cet après-midi du Limousin, Hauts-de-France et aux Ardennes. Ciel mitigé ailleurs, excepté sur le bassin méditerranéen et les Pyrénées où le soleil sera généreux.